Vous écoutez le Libre Journal de Jean-Pierre Diques, dirigé aujourd'hui par Luc Perel, qui reçoit avec l'assistance de Nancy M. Wilfried Würmeling, secrétaire général de l'UNEC et président de l'association SOS Maman, et M. l'abbé Guy Pagès, prêtre du diocèse de Paris. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, le SOS Maman, 755 bébés sauvés de l'avortement, et l'évangélisation des Mahométans est-elle possible en France?
Alors, chers amis de Radio Courtoisie, bonjour. Vous n'aurez pas le plaisir d'entendre Jean-Pierre Diques, qui malheureusement n'est pas là. Et je suis un peu orphelin, mais je dois dire qu'il a bien besoin de repos. Il est parti, non pas aux Philippines, parce que la date d'émission a été changée, modifiée l'année dernière par l'abbé Couture, et pour des raisons non pas d'ailleurs dogmatiques, mais purement climatiques, parce qu'il paraît que la mousson, ils se sont fait rincer plusieurs années de suite par la mousson, donc l'émission a lieu au mois de février ou mars maintenant. Mais Jean-Pierre d'abord garde ses petits-enfants au Baléares, et dont son petit-fils qui est myopathe, comme son fils Damien, donc c'est pour eux très important. Et puis je crois qu'il met au point son dernier livre. Alors je ne sais pas quel est le thème, si c'est la femme artificielle ou un grand roman de relais d'aventure et d'amour. Nous le saurons à la rentrée, mais il prépare un livre, donc voilà. Et il se repose tout en rédigeant ce livre. Alors je reçois aujourd'hui deux personnalités que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, Winnie Würmeling, qui est secrétaire général de l'UNEC. Bonjour, monsieur Würmeling. Et monsieur l'abbé Pagès, qui est prêtre du diocèse de Paris, qui a un apostolat particulier dont il va nous parler tout à l'heure. Mais je crois, monsieur l'abbé, que vous aviez l'intention, comme il est midi, de réciter l'Angélus. Alors, pouvez-vous dire pourquoi cette prière de l'Angélus aujourd'hui?
Eh bien, je crois qu'il faut retrouver cette prière, puisqu'elle nous a été demandée au long des siècles par différents papes, notamment Calixte III en 1456, c'est-à-dire 3 ans après la prise de Constantinople par les Turcs. Et il a demandé donc à l'époque, à la chrétienté, de prier l'Angélus pour explicitement demander à Dieu la conversion des musulmans et la paix. Et donc je crois que c'est un thème toujours d'actualité. Et pourquoi l'Angélus? Parce que cette petite prière récitée matin, midi et soir rappelle les dogmes principaux de la foi chrétienne, que sont la Sainte Trinité, la divinité de Jésus-Christ et la rédemption. D'où dogmes explicitement rejetés par l'islam. De sorte que les chrétiens, si matin, midi et soir, prenaient le temps de, là où ils sont, lorsque la cloche sonne, et même si elle ne sonne pas, ensemble ou tout seul, de se rappeler cette bonne nouvelle, que Dieu s'est fait chair, que Dieu est devenu l'un d'entre nous, autrement dit que nous sommes avec lui. Et si nous sommes avec lui, nous sommes déjà au paradis. Ça aurait donc la puissance de changer la vie si les chrétiens se rappelaient cette bonne nouvelle, Dieu est parmi nous et nous sommes avec lui. Voilà, donc je crois qu'il faut que les chrétiens se remettent à prier l'Angélus s'ils ne veulent pas que, d'ici quelques temps, du haut de nos clochers, ce soit le muezzin qui résonne.
Voilà. Alors, exécutons-nous.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur annonça à Marie.
Qu'elle sera la mère du Sauveur.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Voici la servante du Seigneur.
Qu'il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Et le Verbe, conçu en elle par l'opération du Saint-Esprit, s'est fait chair.
Et il a habité parmi nous.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ.
Daignez, Seigneur notre Père, répandre votre grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu, par le message de l'ange, l'incarnation du Christ, votre Fils, nous arrivions, par les mérites de sa passion et de sa croix, avec le secours de la bienheureuse Vierge Marie, jusqu'à la gloire de sa résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ainsi soit-il.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Eh bien, merci, monsieur l'abbé, de ce bon début. Et nous avons monsieur Vermeling, Winnie Vermeling. Nous allons donc parler de SOS Maman et, au fond, de cet apostolat très particulier, ancien, que vous exercez. Depuis combien de temps SOS Maman existe ?
17 ans, 1995. 17 ans.
Et vous avez à votre actif 255 bébés sauvés.
Non, 756.
756, oui, il y en a eu un de plus.
Oui, non, 756, mais chaque semaine, ça augmente de entre 2 et 3. Et surtout maintenant, en été, il ne faut pas penser qu'il y a des vacances pour les sauvetages de bébés. C'est même pire. En juillet-août, c'est notre période la plus active et c'est en même temps la période où nous avons le moins d'argent. Franchement, on va en parler de cet aspect-là. Donc, chaque semaine, ce chiffre augmente.
Oui, mais ça, c'est quand même une action absolument extraordinaire, mais également dérisoire face aux 200 000 avortements annuels qui sont comptabilisés. Or, il y en a beaucoup plus. Et comment pouvez-vous nous expliquer comment vous procédez pour faire sauver ces bébés-là?
Oui. Bon, au début, on était un peu comme tout le monde quand on a fondé l'UNEC, Union des Nations de l'Europe Chrétienne, maintenant, depuis 1989. On avait mis sur le programme déjà la défense de la vie naissante. C'était un des thèmes majeurs dès le départ. Mais on ne savait pas comment faire. On faisait comme tout le monde, des lettres aux députés, des processions, des prières, même des pèlerinages à Auschwitz, le lieu symbole de l'avortement, pour montrer au monde, voilà, on a un nouveau génocide, 1 milliard de bébés et commis par tout le monde. C'est vraiment un déversement du mal sur le monde qu'il faut absolument faire front. Mais on se disait, on a tourné en rond comme ça pendant 5 ans, jusqu'à à peu près 1995. On a dit, mais tout ça, ça diminue pas d'un cran l'avortement. Pas d'un bébé, enfin, si l'on veut compter. Et il faut devenir beaucoup plus concret. Et il faut dire aussi à Częstochowa, où nous sommes pèlerinés de Auschwitz à Częstochowa, à pied, 120 kilomètres, pour prier dans ce pays qui est préservé de l'avortement, la Pologne.
Mais encore actuellement.
Oui, encore, mais ils ont des exceptions. Les pressions sont fortes. C'est toujours très dangereux quand on commence avec les exceptions. Oui. Ça peut faire casser le barrage. Bon, et donc on va prier chez eux, puisque Dieu les privilégie en quelque sorte, et qu'ils fassent ce même miracle chez nous, en France. Bon, et puis on a vu quand même cette image de la Vierge à Częstochowa, avec ses coups de sabre sur le visage, qui intrigue tout le monde et qui, nous particulièrement, on a dit, ben voilà, c'est ça le chemin, tu peux pas sauver des enfants en restant en dehors du combat. Il faut s'humilier soi-même, il faut souffrir soi-même. C'est la recette de Jésus, hein. Il est mort sur la croix, c'est comme ça qu'il nous a rachetés. Nous, on fera pas un chemin autour de ça. On va sauver les enfants en souffrant avec les mamans, avec l'environnement dur qu'ils subissent, etc. Et voilà qu'on a vraiment commencé, tout concrètement, on a dit, on fait maintenant un club, on va faire... On va collecter un peu d'argent et puis on va vraiment vers les femmes dans la rue en leur proposant notre aide matérielle. Puisque souvent, moi je dirais 80% des cas, c'est des problèmes même matériels qui empêchent les femmes ou qui les coincent, qu'elles se sentent coincées, forcées à l'avortement.
Donc vous avez des donateurs qui vous donnent régulièrement. Quel est le prix? Est-ce qu'il y a un prix du bébé?
Bon, si je divise les dépenses par an par le nombre d'enfants sauvés, tout bêtement, ça fait dans les 1000 euros. Ça n'a pas changé depuis 10 ans à peu près.
Donc,
un sauvetage, c'est environ 1000 euros. C'est des dépenses de toutes sortes. Il n'y a pas de recette. Hein. Parfois, c'est 50 euros parce qu'on a encouragé simplement une maman. Elle a pris le dessus et elle s'est décidée de ne pas avorter. Puis, on n'entend plus parler. Mais on entend toujours parler quand même à la naissance parce qu'on promet dès le départ une prime
mais
de naissance.
Vous pensez qu'avant les grands discours, il faut arriver avec un billet bleu ou vert, c'est ce qui permet de, au fond, peut-être de faire basculer, dans le bon sens.
Oui, disons, c'est
parce
majeur.
Qu'il y a la misère, parce qu'il y a le besoin.
Oui, mais nous, on a beaucoup de mineurs maintenant. Environ 60% de nos sauvetages sont des mineurs, au-dessous de 18 ans. Alors là, les chèques, etc., ça leur dit rien. Ils n'ont pas de compte, pas de carte bleue. Non, là, il faut carrément aider. Il faut les héberger, il faut s'occuper d'eux. Il faut leur trouver une dame. On a une douzaine maintenant.
Et où, des chambres d'hôtel?
Non. À la Côte d'Azur, au Pas-de-Calais, même à l'étranger, des adresses très sûres, parce que vous allez voir tout à l'heure, parce qu'il y a des cas vraiment tellement durs qu'il faut les évacuer immédiatement de la France, ces femmes-là, les aider à partir, puisqu'elles sont cherchées soit par les souteneurs, soit par les ambassades, soit par la police, par les parents, etc.
Au fond, vous avez quand même une clientèle un peu particulière. Winnie Vermeling, vous parlez de souteneurs, de police, oui. Domaine, c'est la rue ou c'est...
Disons, c'est les cas durs. C'est plus facile de parler des cas durs. Le cas normal, c'est une jeune fille qui, écolière collégienne, qui pleure sur le banc dans un parc public. Ça, c'est le cas vraiment standard.
Et nous
allons là-bas les chercher. Voilà. Et une fille qui pleure sur un banc à 17 ans, eh ben, croyez-moi, 90% du cas, c'est le problème qu'elle a dans le ventre.
Avec son petit Tamil l'a laissé tomber.
Voilà, la famille l'a chassé, je te tuerai, etc. On a eu ces cas-là des familles juives, des familles catholiques, des familles orthodoxes et des familles musulmanes. Des pères qui menacent, je te tuerai si tu fais pas partir ce bébé. Ah oui, et donc elle fuit, elle pleure, elle prend des médicaments. On avait aussi 2-3 suicides comme ça. Hein.
Oui.
Des jeunes filles qui se suicident avec le bébé.
Et alors, comment les repérez-vous? Comment est-ce que vous les trouvez? Vous promenez dans les...
On va dans les boutiques, par exemple, des vêtements, la section bébé, on trouve là-bas des filles qui regardent. Quand elles s'arrêtent comme ça, sans toucher les vêtements, elles regardent. Là, il y a quelque chose. Et c'est très facile de les approcher à ce moment-là. Je peux vous aider, vous avez un problème. Mais comment vous voyez? Je le vois. Bon, c'est pas moi qui fais ce travail. Ça, c'est un travail entre femmes.
Oui.
Faut pas s'aventurer, nous, les hommes, dans un travail d'approche comme ça. C'est quand même un thème extrêmement délicat, intime. La grossesse, de quoi vous mêlez-vous? C'est tout ce qu'il me dirait. Elle me dirait.
Oui, c'est normal, oui.
Voilà.
Donc, en fait, vous avez des collaboratrices.
Absolument.
Vous en avez combien? Combien même?
Ah ben, on a maintenant 7 groupes qui marchent.
Sept.
Il faudrait 1000 pour arrêter l'avortement. Mais disons 7 qui marchent. Et ce sont par exemple, en Géorgie, c'est la princesse Murat qui s'occupe. Ouais. On a monté là-bas toute une maison pour 12 000 euros. On l'a acheté. Ils ont déjà sauvé, je crois, maintenant dans les 50 bébés. Mais c'est facile là-bas. Là-bas, un bébé coûte 50 euros, vous voyez. Chez nous, c'est 1000 euros. Alors, il y a des gens qui me disent, mais il faudrait peut-être travailler plus là-bas, ça fait plus de bébés sauvés. Je dis, oh non, alors là, on va pas commencer à compter. Parce que ça aussi, Luc, c'était votre question tout à l'heure.
Oui, oui, mais...
La goutte dans la mer.
Oui,
non,
oui.
C'est pas à nous à réfléchir là-dessus. Une fois,
oui, c'est bien.
Roi d'Israël, il voulait compter son peuple.
Oui.
Et Dieu est intervenu par un prophète, il a dit, arrête de compter mon peuple, c'est moi qui compte mon peuple. Vous voyez,
et c'est faire ce qu'on peut là où on est.
Celui qui est moins démocratique du monde, c'est Dieu lui-même.
Donc il n'y a pas de distinction, vous prenez tout.
Exactement.
Voilà.
Un bébé vaut l'univers.
Voilà.
Quelle que soit sa race, sa religion, son origine. La grande Sainte Thérèse
a demandé
Jésus, pourquoi t'as fait l'univers en regardant vers le ciel? Et il a dit, pour toi. Ouais. Tout vaut tout. Un bébé vaut le monde. Plus et moi, je pense même chaque bébé, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau monde. Dieu, il a un courage incroyable. Là où nous, on dit tout est foutu, laisse tomber, on fait même plus de pèlerinage l'année prochaine, on m'a dit, hein, en disant c'est la fin du monde en septembre, etc. Arrêtons. Le bon Dieu qui met un bébé sous le cœur d'une femme, ça commence à zéro, la création. Et le rôle de la femme, vous voyez un peu, le rôle de la femme dans cette tâche. Une fois, je l'ai dit ici, c'est chez Serge de Beketch, nous, les hommes, disons clairement notre rôle. Il y a un autel, au-dessus, il y a Dieu, à côté de lui, il y a les femmes, les co-créatrices, qui continuent à créer l'être humain. Et nous, on a le droit, comme des enfants de cœur, être à genoux, au pied de l'autel, et amener les sous nécessaires et les dispositions nécessaires. Et là, Serge Beketch, il a dit, raconte pas trop, parce que sinon, les auditeurs de radio, sinon, Radio Courtoisie, vont arrêter le bouton. Oui. J'ai dit, mais c'est ce qu'il faut. Il faut même qu'ils disparaissent sous la table. Il a dit, on fera ça la prochaine fois.
Bon, ben, c'est très bien.
Voilà,
bon,
maintenant, si vous pouvez. Juste une auditrice qui nous remercie pour cette émission, qui démarre très
bien. Merci, chers amis. Mais vous pouvez peut-être nous identifier, Nancy, si vous voulez bien.
Donc, ici, Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal de Jean-Pierre Diques, dirigé aujourd'hui par Luc Perel, qui reçoit, avec l'assistance de Nancy, M. Wurmeling, secrétaire général de l'UNEC et président de l'association SOS Maman, et M. l'abbé Guy Pagès, prêtre du diocèse de Paris.
Bien, écoutez, alors, c'est parfait. Donc, les pauvres, la rue, mais les riches, monsieur.
Oui,
Vermeling,
ça, c'est une bonne question.
Qu'est-ce que vous.
Tu me dis.
Comment faites-vous avec les riches ?
On m'a toujours dit, vous occupez un peu des pauvres dans la rue. Mais écoutez, les pauvres dans la rue, c'est l'Évangile. C'est pas n'importe qui, les pauvres dans la rue. Quelque part, nous sommes tous des pauvres. Et si nous ne le sommes pas, nous avons aucune chance au royaume de Dieu. Donc, c'est déjà vraiment un thème important, les pauvres dans la rue. À part ça, une fois, oui, on était autour d'un feu de camp avec des jeunes, là, dans les Pyrénées. Et les langues se délient. Et un des jeunes m'a demandé, mais qu'est-ce que vous faites avec les filles riches, les jeunes filles riches qui ont les secrétaires de la Défense, qui ont leur troisième bébé qui veulent avorter, comme les deux premiers? Ah ben là, j'ai dit, ben, ça c'est une question. Hein. Parce que là, je crois, même le bon Dieu, il sait pas quoi faire. Et il l'a dit. Il a dit les riches, il a dit des terribles mots sur les riches. Dans le sens riche, hein, faut interpréter, naturellement. Ça veut pas dire ceux qui ont de l'argent sont des riches. Bon, hein, mais être attaché à l'argent et tourner que autour de l'argent, ça c'est riche. Alors effectivement,
C'est une très bonne définition.
Non.
Que vous donnez de la richesse.
Et puis peut-être que la personne qui aidera les petites filles riches va peut-être se déclarer. Il faut peut-être voilà. Aussi.
Après, en vous
mais
écoutant.
Vous n'avez pas votre.
Voilà. Alors, une secrétaire quelqu'un. De la Défense qui voilà. Veut avorter son troisième, quelqu'un qui me téléphone, là, il y a telle fille. Est-ce qu'on peut l'aider? Moi, je dis, je ne sais pas comment faire. Si je viens avec mes 200 balles dans la poche, que j'ai toujours pour aider immédiatement, mais, elle dit, mais je n'ai pas besoin de l'argent, de quoi vous mêlez, etc. Elles sont inapprochables. Inapprochables. Pas irréprochable,
hein, oui,
approchable.
Oui, oui,
oui. Donc si quelqu'un a une idée, comment approcher les femmes riches.
Parce qu'elles restent certainement aussi malheureuses, inapprochables, mais aussi malheureuses.
Il doit y en avoir quand même. Parce que notre rêve, c'est un peu ça. Par la charité chrétienne, par l'amour chrétien, ramasser par le bas. C'est ce terrible problème de l'avortement. Pas par le haut, on pense toujours il faut changer les lois. En Allemagne, ils m'ont dit, par exemple, mais on peut rien faire, ils ont la majorité, ils l'auront pour 100 ans, on peut rien faire, on peut plus que prier. Alors ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Là, j'ai besoin de la France qui a toujours le courage et qui fonce contre le courant. Non, mais on peut tout changer sans toucher aux lois. Si on avait 1000 groupes SOS Maman, on abolirait effectivement l'avortement.
La loi tomberait d'elle-même.
Tout en laissant les députés faire ping-pong avec leur loi, avortement ou non.
Monsieur l'abbé.
Oui, moi je crois que...
L'abbé Pagès.
Merci. Et je crois qu'en fait, pour abolir l'avortement, ce n'est pas simplement en abolissant les structures étatiques et actuelles qui le permettraient. Il faudrait amener à un changement de mentalité. Parce que, en fait, tout se tient. Et ce qui nous manque, c'est une vision cohérente de la vie, du sens de la vie. Parce que dans une société où on ne sait pas pourquoi on vit, qu'est-ce qu'il y a après la mort, pourquoi le bien et pas le mal et vice-versa, l'avortement, l'interdire au nom de quoi? Si on n'a pas des référents pour poser un raisonnement qui soit d'une valeur universelle, on ne peut pas interdire l'avortement. Parce que ça, il n'y a aucune raison. Qui s'imposera. Donc je crois qu'il faut remonter à, comme vous le disiez, à une évangélisation des esprits qui donne à chacun le sens de la vie, pourquoi notre vie sur la Terre a un sens, pourquoi un meurtre c'est grave, etc. Parce qu'on ne le sait même plus. La semaine dernière, j'ai accueilli une jeune femme qui venait pas pour se confesser, c'était étonnant. Elle avait avorté quelques jours avant. Elle est venue me voir, elle venait de me voir d'assez loin, de la Normandie. Pourquoi ? Parce qu'elle n'en pouvait plus que dans son milieu, on lui dise « c'est pas grave ». Elle venait me voir, elle avait appris, voilà, peut-être que j'étais un peu raide là sur cette question, et donc pour parler de ça. Et je lui ai évidemment proposé de se confesser, mais elle ne pouvait pas se confesser, pourquoi ? Parce que quand je lui dis que pour se confesser, il fallait changer de vie, et donc renoncer à la contraception, ça passait pas. Et donc, si on va pas à la racine, c'est-à-dire à une mentalité... Pourquoi tout à l'heure, Winnie, vous parliez des jeunes filles aujourd'hui de plus en plus nombreuses qui se rendent coupables d'avortement. Mais d'où ça vient? Ça vient de l'éducation qu'elles reçoivent. L'éducation qui permet qu'elles peuvent avoir accès d'une façon libre à la contraception. Et de fil en aiguille, on en arrive comme ça à avorter.
Je crois, monsieur l'abbé, que vous avez touché là le lien, je dirais, sur le plan... naturel, hein, le lien fondamental de l'avortement, qui est celui de la contraception.
Tout à fait.
Car l'avortement, c'est la même chose que la contraception, c'est le refus de l'enfant. Or, effectivement, les gens, parce que ça les arrange, il n'y a que les catholiques, et encore, hein, qui acceptent que d'écouter, même d'écouter ce que nous disons. Nous, médecins, moi, en tant que médecin, je n'ai pas peur, mais si je refuse la contraception, et je l'ai appris à mes enfants, d'abord, et à quelques personnes, mais ça n'est pas à cause de ces dangers qui existent, mes séminaires, mais c'est parce que ça mène à l'avortement, au divorce, et que c'est un péché profond, et qui tue notre société.
Absolument.
Ça, c'est clair.
Absolument.
Bon, mais l'évangélisation, je suis tout à fait d'accord, il faut respiritualiser la France pour arriver au fondement sur lequel la France est bâtie, et pour avoir un niveau éthique convenable qu'on avait dans le temps. Mais je pense aussi, et ça c'est très réconfortant pour nous dans notre travail. En France, il y a un bon sens chrétien incroyable, vraiment admirable. Oui. Je dis ça parce que vraiment, en Allemagne, déjà, c'est différent. Au Japon, où j'étais 4 ans, c'est affreux. Il y a qu'un fond païen. Mais ici, il y a la charité encore dans ce pays.
Oui, oui.
Quand nous faisons appel dans notre travail à un chauffeur de taxi, là, je traverse la rue, je dis, j'ai pas de logement. Là, c'est une prostituée. Il faut là, tout de suite, il faut l'évacuer de Paris. Vous avez pas une idée. Crac, il regarde la montre, il dit, dans 20 minutes, ça tombe bien. Je termine boulot, je l'amène en Lorraine chez ma belle-sœur, chez ma belle-mère. Il l'a fait, elle a accouché là-bas, elle est revenue à Paris, on l'a envoyée en Russie. Tout ça. Mais voyez, des gens comme ça qui pratiquent pas. D'ailleurs, dans tout notre personnel, nous on est environ 15, non, les hébergeuses plus les actives. Bon, 15. Il y en a que 2 qui vont à la messe.
Oui, mais je crois une chose. Je crois une chose que vous dites est très vraie du fond chrétien de la France actuelle. Mais ça va pas durer. Ça va pas durer pour 2 raisons. D'abord, à cause de la poussée de l'islam. Mmh. Et c'est dû parce que les gens sont encore à peu près tous baptisés. Même s'ils pratiquent plus, s'ils sont plus. Ils sont baptisés. La plupart. Dans 20 ans, ce sera différent puisque les jeunes générations qui vivent à l'école, qui ne se marient pas, etc. Les enfants, même dans les milieux catholiques, ne sont pas baptisés. Moi, je connais cette dégradation qui existe dans mon département, qui est un département rural, qui est un département profondément très, très, très catholique. Les enfants des paysans que j'ai soignés toute ma vie ne sont pas mariés. Ils ont quelques enfants, mais ces enfants ne sont pas baptisés. Espérons et que, au fond, mais nous ne sommes que des petits moyens, n'est-ce pas, monsieur l'abbé?
C'est
le bon Dieu. qui gouvernent.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Enfin, il ne faut pas être trop pessimiste. Les islamistes, non pas islamistes, les musulmans oui. en France peuvent très bien devenir chrétiens et faire un fonds chrétien nouveau dans ce pays. C'est on verra ça à la deuxième partie.
Voilà, voilà. Avec la Bible. On va parler de ce sujet-là, effectivement, oui. De la conversion des mahométans. Faut-il dire mahométans musulmans ? Est-ce que c'est synonyme exactement ?
Mahométan, c'est l'ancienne appellation.
C'est l'appellation ancienne, voilà.
Oui.
Voilà. Mais n'est-elle pas.
Mais c'est vrai que les musulmans n'aiment pas qu'on appelle leur leader Mahomet, parce que pour eux, c'est négatif, c'est péjoratif même. Ils préfèrent qu'on dise Mohamed. Bon, donc on peut dire Mohamed.
Oui, c'est peut-être le terme qu'utilisent les Occidentaux, Mahomet.
Oui, c'est
ça. Mahomet et Mohamed, oui, c'est ça.
Voilà. Oui, donc il vaut mieux parler des musulmans, vous pensez.
Voilà, oui.
Oui, oui, oui. Très bien. Très bien. Mais alors, Winnie Wurmling, au fond, la vraie charité, est-ce que c'est de préserver la vie sur Terre ? Au fond, là.
Ce qui est déjà la charité commence avec la vie, que je sache. Un bébé qui est complètement innocent, enfin innocent, il y a le péché quand même
originel,
mais de péché personnel dont il serait responsable, c'est l'être humain le plus innocent sur Terre. Alors s'attaquer à cette vie-là, c'est quelque chose de vandale, de barbare, si on réfléchit bien. Aucune génération avant nous a réalisé dans une telle dimension. Donc je crois le premier acte, effectivement, nous adressons à toutes les filles. Hein. On a des mamans en chador.
Oui.
J'en ai sauvé
bien
moi-même,
sûr,
une directement en chador. Je l'embrasse dans la rue quand je la vois maintenant, etc. Bon, ou alors des catholiques, des protestants, des orthodoxes.
Ça n'est pas une question de religion. Mais,
non, pas du tout.
Ma question, c'est pas ça. Ce qui était... Est-ce que c'est le fait de préserver la vie, on est sur le plan de l'ordre naturel ?
Ouais.
Est-ce que c'est finalement l'accès à quelque chose de plus haut, qui est l'ordre surnaturel ? Mais là, comment faites-vous ? Parce qu'il y a quand même, il faut l'accord des parents pour, par exemple, baptiser un enfant que vous avez sauvé de l'avortement. Comment faites-vous dans ce...
Bon, alors ça, c'est une de nos peines. Hein. On a une quinzaine de baptêmes. On a eu une quinzaine de baptêmes sur les 750. Vous voyez, ça fait pas énorme. C'est même un peu décevant. Parce qu'effectivement, quand on sauve une vie, c'est le plus beau, c'est la ramener jusqu'à Dieu. Hein. Que le bébé soit consacré à la Vierge Marie, comme on l'a eu parfois. Et ça, on en pleure quand on le voit.
Tellement oui, vous n'avez pas... Vous n'avez pas de baptême enfant, mais ne désespérez pas, parce que je pense que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Moi, je suis toujours assez étonnée quand même, parce que c'est vrai que l'histoire du baptême, c'est un drame en ce moment, mais ce que Dieu va chercher les gens partout, là où ils sont,
est
très étonnant, et dans des endroits où on n'imagine pas.
Et un par un.
Et un par un.
À la fourchette et escargot, voilà. Comme disait Serge de Beckett.
Ouais. Non, mais...
Bon, une fois, on avait...
Ou Bernard Antoine, je ne sais pas.
Donc, on fait, vous faites ce que vous pouvez là où vous êtes. Après, il ne faut pas non plus se prendre... Enfin, on n'est pas...
Vous avez des messages.
Oui, alors, il y a mais quelqu'un qui nous remercie pour l'émission, qui vous remercie pour l'Angélus, qui suggère à M. de Lesquin de le faire tous les dimanches.
Ah oui, même tous les jours, j'aimerais bien.
Et voilà. Et matin, sinon, une autre
matin, midi et soir.
Qui demande ce que vous pensez, mais peut-être allez-vous pouvoir répondre, Dr Perel, de la méthode Billings.
Ah, la méthode Billings, bah, évidemment, c'est l'alternative. Ça, c'est la question. Le fleuve sur lequel...
Je vous remercie de l'avoir posé.
Oui. La méthode Billings, c'est l'alternative à la contraception. C'est un moyen très, très simple qui permet à toute femme, je ne vais pas expliquer de quoi, mais qui permet à toute femme de connaître son corps et sa fécondité, de savoir ce que...
Et d'en faire ce qu'elle veut.
Exactement.
De la connaître, sa fécondité, et après, elle est actrice.
Ce qu'il faut bien comprendre...
Et donc, c'est un chemin de conversion, parce qu'à ce moment-là...
Mais vous allez me laisser parler alors, sur le... Non, si, parce que c'est quand même... Le chemin de conversion, c'est bien, mais il y a un problème pratique, c'est que l'homme est fécond tout le temps, enfin, en principe, ou pas du tout, et que la femme n'est fécond que quelques jours par mois, et que cette période est très variable d'une femme à l'autre, et même d'une période de la vie à l'autre. Et c'est ça qui est merveilleux avec la méthode Billing, hein, c'est que ça permet de savoir avec une relative précision, et puis il y a des tas d'éléments techniques qui permettent d'être très précis. En théorie, la méthode Billing, au point de vue efficacité, c'est 98%. Mais je dirais, je n'hésite pas à dire que l'efficacité, je m'en fous, parce que ça évite. Le problème, c'est pas d'être efficace. Le problème, c'est que les enfants, les personnes, les gens aient une vie sexuelle normale, sans offenser le bon Dieu. Alors, expliquez-nous le chemin vers la,
eh bien, c'est-à-dire
vers la vie surnaturelle.
Effectivement, ça permet à la femme de se connaître, de gérer absolument sa fécondité comme elle le souhaite, comme elle le désire. Et effectivement, ça n'est plus. Et du coup, c'est un accord avec Dieu. Parce que, quelquefois, de temps en temps, la grossesse, pour une femme, c'est une violence. C'est-à-dire que Dieu vous impose quelque chose et vous n'êtes pas toujours d'accord. Donc la conversion, c'est de dire oui, et après tout se passe bien. Mais c'est quelquefois difficile. Et ça, et la méthode Billings aide. Parce que d'abord, ça, on a l'impression un peu de maîtriser un peu plus la situation. C'est quelquefois qu'une impression, mais enfin quand même. Et d'être à ce moment-là, on est véritablement co-créateur.
Oui, c'est amusant, Nancy, ce que vous dites, parce que finalement, on a l'acceptation de la grossesse. On a le c'est exactement le même problème avec l'euthanasie.
Oui.
Le remède à l'euthanasie, c'est les soins palliatifs, c'est évident. Et ce que c'est que les soins palliatifs, en dehors des massages, du nursing, de la nourriture, mais c'est d'apaiser c'est la réconciliation avec soi-même et avec le bon Dieu. Hein? Même si on n'est pas croyant, d'ailleurs. C'est pas une question de croyance, c'est d'accepter la mort. D'accepter la grossesse, d'accepter la mort. Voilà. Ça, c'est l'attitude chrétienne. Et c'est ça, le chemin, le seul. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour la peine de nous expliquer, faire de la psycho, des machins, des trucs, des chouettes. Monsieur l'abbé.
Pardon. C'est pour ça que ce que vous dites, c'est l'acceptation. Je crois que c'est dans ce sens que ce que vous disiez, Nancy, que parfois Dieu impose comme une violence une grossesse, ça n'a pas lieu d'être si, lorsque les rapports sont posés, on vit dans cette acceptation.
Absolument.
Des conséquences naturelles.
Absolument.
À ce moment-là, il n'y a plus de violence possible parce qu'on est ouvert à la possibilité, même
voilà.
Si on use des moyens que Dieu donne pour que ça ne se passe pas.
Oui.
On reste ouvert à cette possibilité. Mais je voudrais moi-même porter un témoignage, c'est que tous les couples à qui j'ai conseillé cette méthode, après la leur avoir présentée, m'ont tous dit à quel point leur amour en avait été renouvelé. Parce que de s'aimer différemment, nécessairement, ça change la vie. Et si on apprend à se respecter tel que Dieu nous a fait, à poser des actes qui sont responsables, eh bien, on ne peut pas ne pas avoir une vie qui soit différente, nécessairement.
Et plus pure, oui.
Oui, mais ça, c'est bien évidemment...
C'est la grâce.
C'est le fond de...
C'est magnifique de voir ces couples qui...
De changer la vie.
Ils sont changés, quoi.
C'est « viens et suis-moi », hein.
Tout à fait.
C'est pas autre chose. Alors, Winnie Vermeling, quand même, le bon samaritain, finalement, c'est un peu ce que vous faites.
Voilà, je l'ai là devant moi parce que effectivement, si l'abbé avait pas prié l'Angelus, je l'aurais lu parce que c'est incroyable cette histoire du bon samaritain. Il y a quand même d'abord un prêtre qui passe et puis un diacre et tout le monde fait le tour, on veut pas voir le pauvre dans le ravin là, laissé pour mort. Et c'est Jésus qui raconte ça. Et puis il prend en plus celui qui a fait quelque chose, c'est en plus un samaritain. Alors c'était mal vu à l'époque.
Oui, il est
c'était
un peu,
les gars du.
Il est un peu suspens à Divinis, en quelque sorte.
N'est-ce pas, des fondamentalistes, n'est-ce pas? Enfin, et c'est Jésus qui donne lui comme exemple. Bon, pas lui en tant que lui, mais en tant que ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu, dit-il, de sa monture. Il s'est penché sur le pauvre, il a sorti son vin et son huile, il a lavé ses plaies, il l'a monté sur sa monture, l'a ramené à l'auberge, a donné de l'argent, hein, en disant à l'aubergiste, je dois m'en aller une semaine, prends soin de lui, et si tu dépends plus, je te règle le surplus. Tout ça, c'est Jésus, hein, des détails incroyables. Je te payerai le surplus la semaine prochaine quand je reviens de Jéricho. Et voilà, bon, on fait exactement ça. Vous voyez l'argent quand même là, dans ce récit. L'importance de l'argent. Il faut investir.
Il ne faut pas seulement prier.
C'est se moquer des pauvres d'aller avec les poches vides vers les pauvres.
Ouais.
Par exemple. Ouais. Pareil pour l'avortement. Si vous voulez aider une femme, croyez-vous, elle fait ça de cœur gai? La plupart des femmes nous ont dit, vous êtes les premiers à nous encourager. Tout le monde nous dit, vous t'as qu'à avorter. Ouais. La meilleure copine,
le planning familial,
le
professeur, entendu.
La famille, le père, etc. Il n'y a pas un qui l'encourage. Et là, on c'est dit, bien. Mais c'est merveilleux. Vous avez un bébé. Maintenant, on va ensemble se pencher c'est dessus. Bien. On va le sauver. Et tout de suite, mais on n'a pas eu un cas de refus. C'est quand même incroyable. Ce qui montre que les femmes sont... On dit toujours les femmes avortent. Moi, je crois que c'est plutôt les hommes qui avortent.
Oui, ça, c'est clair.
Alors, vous voulez que je mette un peu d'eau à votre moulin? Là, dans tous les messages que je reçois, nous n'avons que des félicitations d'auditrices. Ah. Pour les auditeurs, la page est tournée, on parle d'autre chose. Le déclin de la France, c'est une... Et qu'est-ce qu'on a? Un ratio ciné sur Yannou, voilà.
Donc, oui, lisez, c'est intéressant.
Ah bah non, c'est trop long, et puis il parle de... Mais il se réjouit du déclin de la France, de l'Europe. Passons à autre chose, c'est les autres peuples qui ont leur l'avenir,
oui,
bah, et
c'est
voilà.
Le, ça, c'est le franc-maçon
voilà.
De service.
Plus, et on n'est plus sous Louis
merci,
XIV. Voilà, donc...
Merci. Voilà, mais il y a une chose. Je voudrais citer quand même mon auteur favori pour répondre à ce genre de message. Qui est Buster Brown, qui est une bande dessinée américaine, n'est-ce pas,
du début du siècle.
Du 20e siècle, et qui disait « Le rire des gens qui savent et la punition des ignorants. Ah. » C'est nous qui rirons les derniers, c'est clair. Bon. Monsieur l'abbé, il y a...
Bon, non. On n'a pas... Voilà. On ne va pas parler trop des hommes aujourd'hui, parce qu'ils vont tous arrêter quand même le bouton.
Ils vont tourner le bouton.
Mais le RU486, pour moi, c'est vraiment l'extrême de ce qu'on a vu passer. Hein. Cette histoire-là, le RU486,
et qui est
ça m'énerve à un point.
Oui,
là, vraiment,
qui est donné maintenant par les pharmaciens,
voilà,
délivré
et,
par les pharmaciens.
Et c'est la femme qui
et même
fait.
Sans ordonnance.
C'est même plus, c'est même plus de, le médecin qui agit.
Oui.
C'est la femme. La
oui,
femme.
Et c'est ça, et c'est voilà. Ça la, le côté criminel de oui. la loi Aubry, parce que tout le monde parle de la loi Veil, ouais. Mais c'est la loi Aubry qu'il faut parler,
ouais.
Pas celle des 35 heures, mais l'autre, la loi Aubry de 2001, et c'est elle qui met tout le poids, poids et de la du crime de l'avortement sur la femme. Hein. Et effectivement, ce que vous dites en termes, je crois, très mesurés, mais aussi émouvants, est très important, hein, parce que, Vermeling, parce que c'est vrai qu'on a trop tendance, il ne faut pas accabler les femmes, elles sont déjà accablées suffisamment, parce qu'elles portent le poids de l'enfant, par cette responsabilité, et qu'elles n'arrivent plus à le défendre. Hein.
Ouais.
Alors, le déclin de la France, le déclin de la société, bien sûr, mais c'est des idées complètement, je dirais, obsolètes, ça. Ce genre de...
Ça fait longtemps.
Oui, c'est pas nouveau. En fait, ça vient des loges. Ça n'a pas...
Mais...
On ne discute pas avec... le rire des gens qui savent et la punition des ignorants.
Mais qu'elle trouve une main, une seule... qui l'aide, elle reprend le dessus, la femme. Moi, j'appelle ça la petite flamme qui est là-dedans, et cette flamme, c'est le bon Dieu qui l'a vu. Elle sort, et elle est plus forte que nous, après. Elle protège même, elle se protège, et son bébé, même face à nous, elle nous donne plus son adresse, après. Vous voyez, elle devient un bastion de défense, c'est formidable. Hein.
D'ailleurs, pour confirmer, s'il en était besoin, ce que vous disiez, M. Jumeling, je me rappelle le témoignage de la directrice de la maison Magnificat, qui disait que donc, ces jeunes femmes sont invitées à venir le temps de leur grossesse dans la maison de Magnificat pour donner ensuite leur enfant à l'adoption. Comme ça, elles évitent l'avortement. Eh bien, elle disait que la plupart des jeunes femmes gardent leur enfant. Même si elles sont rentrées là dans le but de donner, après la grossesse, l'enfant à l'adoption, en fait, quand ce petit bout de chou est là, eh ben, elles le gardent et il devient le sens de leur vie. Quoi.
Oui.
Elles savent plus pourquoi elles vont vivre ensuite.
Exact. Nous sommes arrivés là
oui,
aussi.
Non, mais ça
fait peut-être trois fois qu'on a conseillé vraiment l'adoption. C'était des gosses de 15 ans, etc. Chaque fois, toutes ces filles-là, ces jeunes filles et ces jeunes femmes, toutes, on n'a pas un seul cas d'adoption.
Oui.
Ça l'a aidé sur le moment, comme espérance. Bon, de toute façon, ils vont m'aider pour faire adopter le bébé. Bon, pour dépasser le moment vraiment terrible. Mais après, elle prend le dessus. Elle trouve des moyens, elle se défend, comme maintenant j'ai un bébé, etc. Par exemple, on avait une fille de 11 ans hein, qui pleurait là, avenue de Clichy, qui était assise sur le trottoir d'ailleurs, et pleurait. On met la main dessus, là, sur l'épaule. On dit, mais on peut t'aider, qu'est-ce qu'il y a, ma petite? Elle s'appelait Marie. Et elle dit, alors ça, c'est son vrai nom, hein, Marie. Et elle dit, maman m'a chassée, je veux pas des... Bon, je peux même pas dire le mot, hein, ici, à l'antenne. Je veux pas des... Hein, à la maison, je veux plus te voir. Tu as fait ça, t'étais avec un noir, etc. Bon, enceinte, hein, la petite, 11 ans, enceinte. Bon... Alors nous, on a dit, mais viens, on va discuter, on va voir si on trouve une maman pour toi. Et on l'a trouvée. Et comment? Alors on a dit, t'as pas des parents, déjà, de ta famille, une tante, quelqu'un, une grand-mère? Oui, j'ai des parents, j'ai des relatifs, alors de la famille, en Espagne. On a téléphoné là-bas, on fait ça sur place, hein, dans les cafés, hein, sur place, on téléphone. Tout le monde a les mobiles, il n'y a pas de problème. Et on téléphone, oui, je suis enceinte, mais viens chez moi, ma petite, etc. Elle est partie en Espagne, on a payé le train, et même là-bas, ça posait quand même scandale, hein. 11 ans en Espagne, et on avait le même problème de nouveau. Donc, par téléphone, tout ça, on a téléphoné jusqu'au Brésil, où elle avait aussi des parents, et eux, ils ont dit, pas de problème, nous, c'est un pays jeune ici, etc. Bon. Elle est partie là-bas, je me rappelle encore, c'était 7200 francs à l'époque, et on a payé le billet Air France, elle est partie en Brésil. Elle a fait un magnifique bébé. D'ailleurs, vous, Dr Perret, vous nous avez encouragé, vous avez dit l'appareil de procréation dans la femme, ah, c'est oui. une des ouais. choses les plus vite développées, oui, non oui. Oui. C'est pas là que ça pêche. Tout pêche spirituellement, sociologiquement, l'entourage, etc. Donc c'est pas un problème de santé de la femme.
Oui, parce 11 ans, que, 11 ans, une fille enceinte de 11 ans.
Elle en meurt pas du
ça
tout.
Ça dépend hein. de quelle nationalité. Il y a des races plus précoces, il y a des.
Alors, c'est on certain, a eu.
Mais ça n'est pas. Il y a d'ailleurs eu un scandale il y a 2 ans au Brésil où on avait reproché à l'archevêque de Recife d'avoir s'être opposé alors que l'avortement avait été obligatoire pour une gamine de cet âge. Ben, c'est pas vrai.
Oui,
c'est
non, pas vrai. De santé, etc.
Mais j'ai un autre... Moi, je souviens...
Excusez-moi, nous allons nous identifier. Oui. Ici Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal de Jean-Pierre Dicaise, dirigé aujourd'hui par Luc Perrel, qui reçoit avec l'assistance de Nancy M. Winnie Wurmeling, secrétaire général de l'UNEC et président de l'association SOS Maman, et M. l'abbé Guy Pagès, prêtre du diocèse de Paris.
Et j'ai souvenir d'un cas dans ma clientèle, c'est vieux, mais d'une de mes clients qui avait eu des jumeaux et qui s'était fait avorter. Et donc l'avortement s'était très bien passé. Et la seule chose, c'est que il était à moitié manqué puisque un des deux jumeaux a survécu dans l'utérus. Et ils s'en sont aperçus un ou deux mois après. À l'époque, c'était la date limite était largement passée. Alors du coup, le père n'a plus rien dit. Le père s'était roulé par terre parce qu'il voulait pas que sa femme... des agriculteurs, hein, ils avaient 2 enfants. Ils n'en voulaient pas 4. Alors, c'est quand même un gamin qui avait la vie bien accrochée parce que il a survécu. À l'avortement de son frère et au sien propre. Et cette femme a accouché d'un bébé normal au terme prévu. Et ils étaient complètement gâteux de cet enfant, complètement ravis. Donc, si vous voulez, c'est sûr que ce que disait Nancy un petit peu tout à l'heure à propos de la terreur de la grossesse, parce que c'est vrai qu'il y a des... Mais, en fait, c'est une question... C'est dans le cerveau que ça... C'est dans la tête que ça se passe. D'ailleurs, l'organe sexuel... par excellence, c'est le cerveau, c'est pas le bas, ça va après, c'est dans la tête que ça se passe, et c'est là qu'il faut que on a réussi à sortir de la tête des gens que la maternité était quelque chose de bien.
Et il faudrait remettre dans la tête des gens le fait que si on accepte de supprimer un être humain innocent, comme le disait Monsieur Wurmeling, comment est-ce qu'on peut, à la face du soleil, continuer à vivre? D'où vient que notre société est si dépressive? On ne peut pas être heureux en se disant, moi, j'ai refusé la vie d'un autre. Cette jeune femme dont j'ai parlé, qui est venue me voir la semaine dernière, elle me disait, je ne pourrai jamais oublier ce que j'ai fait. Je ne me pardonnerai jamais.
Absolument.
Donc des gens comme ça, et donc, c'est pas simplement elle, c'est tout son entourage qui a contribué, qui l'a encouragé. Donc tous ces gens, comment est-ce qu'ils peuvent continuer à vivre en paix avec eux-mêmes, à se regarder dans la glace? C'est plus possible. Donc, comme le disait M. Mumling, l'avortement, c'est un problème fondamental pour notre société. Si on n'est plus capable de s'accepter les uns les autres, si petits et faibles que nous soyons, nous ne pouvons plus vivre ensemble. Nous n'avons plus de raison de vivre. Comment dire à Dieu, donne-moi la vie, et moi je la refuse à un autre? Comme dit Saint Jean, premier épître de Saint Jean, nul homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui. Celui qui participe à un avortement, non seulement il est excommunié par l'Église, mais il se damne à coup sûr. Et donc notre âme vit avec ce poids. On ne peut plus être heureux, ni pour le temps, ni pour l'éternité.
Merci, monsieur l'abbé.